création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. La radio, comme invention d'une langue, la littérature, comme invention du monde, se retrouve ce soir dans une proposition d'Olivier Caparros, Nathalie Battus, Jason Taous et Bruno Mourland. Si la carte n'est pas le territoire, elle y contribue tout autant que la langue. Le défi ce soir, faire vivre une langue inconnue, ancestrale, mythique, en la commentant, la jouant, en la faisant résonner avec les instruments de Nicolas Lausson ou encore Lionel Marchetti, pour élaborer une pièce qui s'écrit en une langue nouvelle. Ce soir, c'est la découverte d'un pays inconnu qui nous est proposé. Autant dire que dans cet ACR, nous allons laisser la parole aux Warts, dans leur langue, le Wardouaisan.
Gara.
Pays.
Garan.
Fait de rester.
Garen.
Rester.
Garata.
Condition.
Il y a des phases de demi-sommeil qui sont des phrases.
Alors l'île du Nord, c'est l'île Boran, qui a une forme... Est-ce qu'on peut décrire la forme de l'île ?
Oblongue, avec plusieurs golfs. La côte du Nord est à quelques échancrures.
Donc on a sous les yeux les cartes sont présentées du Nord au Sud.
Il y a un terme pour qui relie les deux îles, un terme Ward.
Atelier de Maroua, espace et langage, d'après les Ward de Frédéric Verst.
De prime abord, il appartient à un livre d'être rafraîchissant, aurait dit Francis Ponge. Ce qu'il importe de relever, c'est qu'une langue nouvelle a été décelée et que Frédéric Verst, qui l'a apprise, s'en fait l'interprète.
L'île du Sud doit couvrir le trois fois la superficie de celle du Nord, approximativement. Trois fois plus grande, également assez allongée, plus renflée vers la partie centrale. Et les deux îles, tout à l'est, à la faveur d'une sorte de détroit, semble presque se toucher.
C'est un ultime, donc c'est les deux îles, l'île du Nord, l'île du Sud. L'île est appelée ainsi par les Européens.
À ma connaissance, non. Ils distinguent tout le poisson du Nord. Enfin, ils parlent du Boran pour parler de l'île du Nord. Ils parlent souvent du Nentan pour parler de l'île du Sud. Mais il n'y a pas un terme qui rassemble les deux.
Anthologiste patient. Il a permis de rendre vie et histoire à une civilisation et à une langue ancienne. À croire qu'une langue inconnue, ancienne, étrangère, n'a rien d'une langue morte. Les Ward, restitution d'une civilisation disparue, dont ne subsiste qu'un corpus vaste de textes, chroniques, poèmes et récits, d'une écriture, de cartes géographiques, dates, noms de lieux, noms de souverains, d'hommes et de dieux. Grand recensement, inventaire d'une invention permanente. Les Ward et leur monde appellent une table de correspondance et d'analogie. Des feuillets émargés, ou bien devrais-je dire sont émargés. Petite coupure, la fiducia des cartes anciennes, peut-être.
Et ils ont conscience que c'est deux îles.
Ils parlent plutôt de terre. Au début, ils ne doivent pas avoir conscience que ce sont des îles. Ils parlent de terre. Le mot utilisé le plus fréquemment pour renvoyer soit au Boran, soit au Nentan, c'est Arthus, qui est terre, grande terre. Voilà, grande terre.
Quant au lieu, nécessité qui noue le corps et l'espace. L'auditeur ne trouvera pas à nommer le non-lieu. Quel est-il ? Toute l'attention des musiciens se concentre sur le lieu, qui est un chiffre et une enclosure. Avant que cela ne sorte, que want, quelque chose. On croit affronter la peur d'animaux sauvages. alors que nous affrontons des animaux humains. Tous deux, selon leur espèce, sont des animaux du langage.
Karazhan.
Dévaster un pays.
Karazhan.
Dévastation.
Yam. Yarn.
Ami.
Yarnata.
Amitié.
Yarn.
Yarne.
Amir.
Yarnama.
Signe d'amitié.
Garaband.
Basti.
Kara.
Inclination.
L'utopie, c'est nulle part ailleurs. Enfin, c'est pas forcément un endroit où on peut habiter. Or, toi, tu habites dans ta langue.
La question de l'utopie, à mon avis, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, est moins peut-être dans l'ailleurs ou dans le non-lieu que dans la perfection ou l'espèce de jeu mécanique avec la perfection. C'est-à-dire, il n'y a pas de recherche de la perfection.
Je vois une carte qui se situe entre deux fins, entre deux formes de fin, c'est-à-dire entre la fin du ciel et le désert sans fin. Et je vois qu'il y a quelques incertitudes dans cette carte. C'est une carte qui est apparemment ne semble pas être capable d'avoir fait le tour du territoire puisqu'il y a ou des peuples ou des peuplades ou des êtres qui dont l'existence est encore incertaine, par exemple les hommes pourpres, de même que les spectres. Après tout, si les spectres sont bien les spectres, c'est à peu près normal. En revanche, pour ce qui est des Wagar Makan, leur présence est incertaine. Donc une carte avec des incertitudes quant aux êtres qui peuplent le territoire dont elle est supposée parler, dont elle est supposée rendre compte. Les îles sont... Il y a un lac de feu. Alors forcément, un lac de feu, c'est un endroit qui mérite le détour. Un lac de feu. Et puis, est-ce qu'il y a un centre sur cette carte? Ce lieu est nommé le lieu des 11 cités, qui est au-dessus du lac de feu. Alors il y a peut-être, sans doute, des zones denses, des zones de peuplement denses. Pourquoi les limites de la Terre sont nommées également par l'expression « fin du ciel » quel est le rapport entre la Terre et le ciel pour que la limite d'une île soit nommée « fin du ciel » Donc je me demande pour le coup qu'est-ce que cette carte dit de la cosmologie de ceux qui l'ont nommée ainsi. Alors c'est une carte générale que je décrivais là, qui porte pour titre les Indes ultimes. Mais l'ultime ne signifie pas de pouvoir attester sans incertitude quels sont les peuples présents. Donc je me demande ce que veut dire ultime dans Indes ultimes, à part que les limites de cette terre ne signifie pas la limite du savoir relatif à cette terre.
Tout a commencé par le lieu et le fait de nommer le lieu. L'auteur Verst n'est-il pas le nom d'un village du château des Carpates de Jules Verne? En Wild West End, il est un nom de chose dans un lieu. Le lieu est comme le sceau de la lettre. Pour un auteur, une parfaite défense contre le temps, le blason d'un nom qui montre et cache. Solécisme du geste.
Quelle flûte? Qu'est-ce que c'est que cette flûte? Bare Nazarın.
Comment s'orienter dans une langue? Wabaret Naz Martin Weston Ayrton. Parfois on n'entend que des musiques. Akaltam Nazaraot Marmaron Kun.
Dans le colloque des oiseaux d'Atar, la simorgue est déjà les 30 oiseaux qui marquent les étapes qui y conduisent, à partir de la sourate des fourmis. Votre langage est comme le langage des oiseaux. Elle a possédé le langage humain, et en Perse, elle résidait dans la montagne fabuleuse du Kaf.
Algaren.
Résider.
Algir.
Ni.
Nashon. 3e siècle. De tous les animaux, il semble que les oiseaux soient les meilleurs, puisqu'ils ont la meilleure mémoire des lieux. Les oiseaux migrateurs, sans avoir de carte, ne se trompent jamais de route ni de destination. Ils ont une expérience du lieu bien supérieure à celle des hommes. Il est juste de penser qu'ils ont sur les choses du lieu la mémoire maximale. Néanmoins, les hommes ont la mémoire conceptuelle, car ils sont capables de nommer le lieu. C'est le verbe barwan qui est utilisé.
Il saute aux yeux qu'un homme au loup, Ward, deviendrait un démultiplicateur de loups sonores. On conçoit une mise en action dramatique qui double, imite et recompose une prose du monde. Ce qu'on appelle Racine a pris source dans nos anciennes gorges et dans les animaux qui nous instruisent. En effet, les variations des animaux comme modulation, variations imaginaires d'étapes de l'apparaître, doivent être pensées comme une.
Karatsaran.
Conquérir.
J'ai lu le premier volume, j'ai cherché le deuxième volume chez moi. Il a disparu, mais avec les livres chez moi, c'est tout le temps comme ça. Ils ont une vie, quand je dors, ils font des choses. Et donc, il a disparu, le deuxième volume. Et au fond, quand j'ai lu ça, je me suis dit, de quoi rêve-t-il? C'était ça ma question. De quoi rêve-t-il?
Pourquoi tu as créé cette langue?
Pour comprendre ce qui est difficile. Il y a deux verbes pour dire comprendre en wanwaisan. Il y a un verbe très simple, wanaren, comprendre. Et il y a un autre verbe, c'est arkazen, comprendre ce qui est difficile à comprendre. Là, c'est pour arkazan, bad arkazan.
On entend des oiseaux.
Nashon, 3e siècle. De tous les animaux, il semble que les oiseaux soient les meilleurs, puisqu'ils ont la meilleure mémoire des lieux. Les oiseaux migrateurs, sans avoir de carte, ne se trompent jamais de route ni de destination. Ils ont une expérience du lieu bien supérieure à celle des hommes. Il est juste de penser qu'ils ont sur les choses du lieu la mémoire maximale. Néanmoins, les hommes ont la mémoire conceptuelle, car ils sont capables de nommer.
Je nomme ce lieu. Je nomme ce lieu et je l'appelle haut-parleur. Et en ce lieu, je nomme voix, ce qui lui donne vie. Je tiens un laboratoire dans un phare.
De quoi rêve cet auteur? Bon, le de quoi, je ne sais pas. Mais le temps, on comprend que ce n'est pas une affaire d'origine. Hein, c'est très important que ça ne soit pas l'éternel discours d'origine d'une langue possible, éventuelle, utopique, Dieu sait quoi. Donc on n'est pas ramené aux origines, il n'y a aucune fiction dans le temps. Mais ce qui est très important, c'est le lieu. Hein, pas forcément l'espace, mais le lieu d'ancrage de cette langue, si elle est ancrée. Question. Est-ce que le lieu est un lieu d'ancrage de cette langue ?
Il y a encore des dieux qui clignent de l'œil. Et dans ce clignement, ils acquiescent à l'œil fermé qui les prie. On saisit toujours mieux une éclipse dans les reflets mouvants d'un lac que dans la toile de fond du ciel. Il y a encore des dieux qui clignent de l'œil. Ils acquiescent à l'œil fermé qui les prie. À l'œil fermé qui les prie. On saisit toujours mieux une éclipse dans les reflets mouvants que dans la toile de fond du ciel.
Hypnose des temps anciens. Arzam et Azmar. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos.
Avoir soi-même un fils, à quoi cela sert-il si d'autres veulent bien engendrer des garçons? Veillant à les nourrir durant la saison fraîche, pour qu'au printemps venu, l'amant puisse manger. Il arrive qu'un loup, pour séduire l'agneau, déguisé en mouton, trompe l'œil du berger. Sur ses deux joues de lune, une jeune pudeur a semé des soleils de rouges canicules. Les sphères de ses yeux répandent la lumière. Elle tourne sans cesse au ciel de sa beauté. Éphèbe bien-aimée, ne me regarde pas. Si ton regard a vu quelque chose de blâmable, car toi, tu ne sais pas tout ce qu'est la beauté. Et puis, tu ne sais pas ce que dit mon regard. Mais pourquoi portes-tu ce vêtement vermeil? Voudrais-tu ressembler à cette couleur rouge que ton amant perçoit à l'endroit de tes lèvres? Ou bien est-ce à celui de tes deux joues pudiques? Serait-ce que j'ai bu l'eau de tout l'océan pour encore en pleurer après d'aussi longs jours? Mais où tout ce liquide a-t-il donc pris sa source? La beauté serait-elle une éternelle crue?
Toute incantation a quelque chose d'une injonction. Celle-ci est d'abord un devoir, et un devoir de croire, au sens de la religion romaine antique. Un monde merveilleux de religion républicaine, dirait-on dans un monde occidental moderne. Mais ce monde constitue la pépinière du paradis.
L'acte plasmateur. Alors, ça, c'est tout à fait fondamental. Et c'est peut-être ce qui pourrait régler, ou en tout cas nous donner des règles de passage entre l'invention d'une langue de toute pièce comme celle-ci et puis un univers poétique. Mais moi, je le verrais bien avec cette ligne d'horizon.
Wasta, bien ouvert.
Wasta. Wasta an Kamadan. Nem jönt
Norzen Batsamapaman.
Est-ce que tout écrivain ne crée pas sa langue? Est-ce que ton projet n'est-il pas un projet, projet radicaliser le projet de tout écrivain?
Oui, mais c'est aussi de aussi tordre le cou à ce cliché, parce qu'il n'est pas vrai que tout écrivain crée sa langue. Je ne crois pas. Tout bon écrivain peut-être, et encore, et encore.
Wana alto balwago. Balwago, oui, c'est un problème avec ce O.
C'est difficile, en effet. Mais pour toi, c'est un détour ou une installation? Parler tout, je veux dire, pour revenir à ta langue maternelle, ou en fait pour t'installer définitivement et puis n'être dans ta langue maternelle qu'à travers la traduction?
Deuxième option, clairement.
Je pensais plus précisément à tous ces gens au début d'une histoire littéraire, en fait, qui ont vraiment créé des langues littéraires. Enfin, concrètement, bon, je connais bien le cas de l'Estonie. Oui. Des gens comme Johannes Raavi qui ont créé l'estonien. Je veux dire, enfin, ils ont au point qu'ils ont inventé des suffixes. Hein, ils ont fait des trucs invraisemblables, quoi. Ils ont inventé des mots à partir de rien, comme ça, de sons. Donc, je crois quand même qu'il y a vraiment des écrivains qui créent une langue, enfin, au sens tout à fait concret du terme. Hein.
En particulier, en effet. Donc... Oui. Langue du Caucase ou de l'Europe de l'Est, de façon voilà. générale. Oui. Mais ça doit se trouver dans toutes les parties du monde aussi.
Nous sommes traversés par un bouleversement des signes et il arrive tout d'un coup quelqu'un qui nous invente un régime de signes dont il dit voilà ce qu'on peut dire avec. Donc il correspond assez fondamentalement à quelque chose qui nous anime. Hein? Nous voyons bien que tout a changé quand même, nous n'écrivons plus de la même manière, la langue, le français est en train de changer à une vitesse folle quand même, hein. Bon, les autres langues également, la monnaie n'est plus la même, je veux dire, l'idée d'image elle-même a transformé. Donc il arrive avec ça et il arrive en disant il s'agit de langue, et en fait il ne s'agit pas vraiment de langue, il s'agit de cette stupéfaction dans laquelle nous sommes, qui est que l'écriture a envahi à peu près tout le monde dans lequel nous sommes. Hein, les oralités de la radio, c'est des oralités par des ingénieurs qui savent lire et écrire quand même. Ils supposent le savoir graphique. Donc, il arrive à nous dire, ben voilà, nous sommes dans ce monde où les signes changent et qu'on ne comprend pas vraiment. Et notre parole intérieure serait peut-être... Une clé paradoxale. Mais bon, ce qui m'intéresse plutôt maintenant, c'est ça. C'est pourquoi ça, maintenant, dans la situation où nous sommes actuellement, de dire, voilà.
Les sillons discographiques ont été creusés pour une semaison particulière et la récolte de certaines semailles. La radiophonie, qui consiste à produire des sons sur des fréquences hertziennes audibles, sème des présences et des absences, comme par caprice, les alternant, les actualisant ou non, dans le temps de formules abstraites, courbes, échancrures, tissus de voix et de musique. Semer une absence signifie qu'on dresse la carte d'un territoire dont on ne peut nommer aucune parcelle ou partie. D'une vision concrète, on a volé les noms. La radio, comme l'invention d'une langue, est une béance congénitale au cœur de ce qui est et de ce qui a déjà été. On pourrait dire « j'ai parlé » lorsque je parle et que vous m'entendez. Comme il a été dit en polonais « on nagra », il enregistrera. Une prophétie au long cours. Ainsi va la langue inventée et restituée. Car c'est une seule et même chose. Un son a traversé l'espace et a été transmis. La dette repose.
Je suis accompagnée de mon palais.
Ça m'évoque des bribes de gestualité grecque, de culte, tout simplement. Les jarres, les onguents.
Je suis venue jusqu'au portique lumineux, après avoir traversé la forêt sans milieu. Je suis accompagné de mon palais. J'ai déposé mon trône devant le sanctuaire, car c'est un marche-pied pour le trône du Dieu. J'ai fait porter dessus mes fardiers, les objets précieux destinés aux offrandes,
car c'est un marche-pied pour le trône du Dieu.
Les jarres pleines de miel et d'onguents parfumés,
les objets précieux destinés aux offrandes, les jarres pleines de miel et d'onguents parfumés, effet de turquoise,
je suis
celui que les buffles ont tiré avec force depuis la vallée du fleuve
Millénaire,
après avoir traversé la forêt sans milieu. Je suis accompagné de mon palais. J'ai déposé mon trône devant le sanctuaire, car c'est un marche-pied pour le trône du Dieu. J'ai fait porter dessus mes fardiers, les objets précieux destinés aux offrandes, les jarres pleines de miel et d'onguents parfumés, le cerf qui, pour l'ornement, est fait de turquoise, celui que les buffles ont tiré avec force. Depuis la vallée du fleuve où il est né, afin qu'on le dépaisse au nom du triomphateur, en mémoire du cerf que le Dieu a sacrifié. J'ai ceint la moltière autour de mon mollet, et j'ai passé sur mon visage le blanc brillant pour être imprégné des rayons du soleil avant d'entrer à l'intérieur du temple. J'ai imploré la sauvegarde du royaume. Je me suis agenouillé devant le souverain suprême. De nouveau, je me mets à prier sa grâce. Le gouverneur m'a accueilli sur le seuil. Je prononcerai donc le nom du Dieu. Ainsi que l'a permis l'oracle sacré. Voici que je prie le nom de
Parathon.
Et que je redis le nom de Parathon. Moi qui ai l'excellence devant l'autel, je me présente comme un serviteur obéissant. Je me suis dépouillé de tous mes bandeaux, n'ayant plus pendant d'oreilles ni pectorales. Dans cette nudité pieuse, je reste immobile. Puis j'irai allumer la lucarne des lampes. Je verserai un peu de l'eau sacrée du vase. Ma tête supportera le poids de la couronne solaire. Afin que je puisse réciter une autre litanie. Je dis à voix basse des vœux pour le royaume. Que le triomphateur nous protège.
Nous qui sommes assemblés dans le temple, que ce cortège de pèlerins soit digne du salut et de la visite d'en haut. Car ce jour est le plus grand de l'année.
Comme il a été dit dans d'autres traditions, le récitateur, la geste récité et le héros du récit forment une seule et même réalité.
Mon dictionnaire personnel à l'article Zata donne les significations suivantes.
Fait d'être ceci ou cela, distinction, définition relative, fait de pouvoir être nommé.
Zata abzait et wama,
ce qu'on peut nommer la vie et ce qu'on peut nommer la mort.
Fait d'être quelque chose,
réalité,
vie réellement vécue.
Zata tsanen, mener sa vie.
Ce qui me semble vraiment particulier là, c'est qu'il y a un double mouvement. Bon, il y a écrire dans une langue étrangère, et il y a écrire dans la langue étrangère qu'on a créée. Mais il y a au-delà de ça, c'est-à-dire que cette langue étrangère devient sa langue, comme tu l'as dit. Je fais un adieu au français.
Mais ce qui nous est donné à lire pour l'essentiel, nous lecteurs, c'est quand même un texte en français.
Alors,
avec effectivement ces particularités stylistiques qui sont celles d'être une traduction, mais c'est quand même un texte français.
Alors,
que nous pour
nous,
les lignes pour l'essentiel.
Oui, pour nous, c'est un texte de littérature française, mais pour son auteur, je crois que ce n'est plus un texte de littérature française.
On le sent, ça, que quelque chose de l'ordre de l'évolution de cette langue n'est pas indiqué. Comme si on l'annonnait comme langue, et en un sens atomisée, avec un premier repère d'attaque, hein, comme on attaque la musique toujours de la même façon. Et en même temps, cette langue comporte une grammaire avec la perspective de l'évolution de son usage.
On a l'impression d'une langue, au fond, morte pour celui qui parle, et qui est une langue liturgique. On a l'impression d'une langue liturgique. Moi, j'ai travaillé sur les textes de l'Iran ancien, qui sont des textes écrits aux environs, à la période historique largement, au Moyen-Âge, disons, et qui écrivent des compositions orales, disons, de moins 1000. Et la langue a été conservée, un peu comme les Védas, par l'oralité, indépendamment de l'écriture, de façon liturgique et extrêmement sévère. Donc, on a l'impression que ceci est proche, quand même. C'est un peu bizarre de prendre une création de langue dans l'axe d'une liturgie sévère. Voilà. Dans cet axe-là, disons que si j'avais fait le travail d'inventer une langue, ce que c'est Dieu merci, ne m'est jamais arrivé, je serais plutôt partie de « passe-moi le sel ». Et non pas de la prêtrise, ça non.
Tu voulais dire, en fait.
Les écrivains estoniens ou Pasolini sont des gens qui cherchent à se rapprocher de quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre du maternel, de la racine, du profondément déjà existant, même si dans la réalité, en fait, ils s'en éloignent profondément. Dans la réalité, ils construisent quelque chose d'artificiel. Je crois que ta démarche est en fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu vas, au contraire, vers l'étrangeté absolue. Tu as tenté de construire quelque chose.
Ce qui permet peut-être, à certains égards, de situer Ward dans une tradition de l'écriture en haine de la langue. On connaît des choses là-dessus, en haine de sa langue, en haine de la langue maternelle, en haine de sa langue.
Mais en même temps, Tu aurais très bien pu n'écrire qu'en wardouaisant et refuser la traduction.
Oui,
tu es toi-même ton propre traducteur. Donc il y a cette haine de la langue ne va pas jusqu'à refuser d'écrire ou de traduire et d'être publié dans cette langue.
ce que tu dis, cela engage la puissance de la langue et la capacité ou non d'une langue à pouvoir tout nommer. Alors qu'il y ait des lieux innommables atteste le fait qu'une langue ne peut pas être refaite, et donc l'innommable du lieu, c'est ce qui atteste que la langue n'est pas un code.
Le livre du lieu et du corps. La nature du corps est certes d'être un lieu, et même d'être un lieu dans un lieu. Personne ne peut sortir de son corps. De même, personne ne peut sortir de son lieu. Et l'on ne saurait entrer dans quelque corps. De même qu'on ne saurait entrer dans le lieu en tant que tel. Voici que seul le lieu peut entrer dans un certain corps, parce qu'il est, dans sa réalité propre, quelque chose de conforme au corps. Voici que c'est un lieu qui a la possibilité d'entrer dans un autre lieu. Il y entre dans le passage d'une porte.
Hypnose des temps anciens. On y accède par des portes dont on dessine soi-même les contours sur un mur frais.
Car c'est plutôt le lieu lui-même qui est la porte. Et avant que d'entrer, il y était déjà, car le lieu demeure au sein du corps, comme si c'était le même espace. Étant par nature mouvement, un corps demeure dans l'espace comme si c'était son lieu. Le lieu ne peut avoir de mouvement, mais le corps le peut, selon l'union avec son lieu. De même, pas de mouvement possible pour l'espace, mais le lieu le peut, selon l'union avec son espace. Le plus grand vient du plus petit. Le mouvement qui donne vie à l'univers ne vient pas de l'espace dans sa totalité, mais il vient du corps qui est moindre par sa taille. Voici que c'est le soleil qui fait tourner le ciel et non le ciel qui fait tourner le soleil. Que c'est le lieu qui fait tourner l'espace, de même que c'est le corps qui fait tourner le lieu. Que ce n'est pas l'espace qui fait tourner le lieu, de même que ce n'est pas le lieu qui fait tourner le corps.
Comme les Ward ne reconstruisent pas les villes qui sont détruites, parce qu'ils pensent que les ruines sont habitées par ce qu'ils appellent des miasmes, des esprits malfaisants, les villes détruites sont toujours abandonnées.
Voici la racine Garth. Kimon, démolie, qui signifie à la fois pousse, les ruines brandir, habitées de miasmes celui qui ou d'esprits brandit, perplexité, ne peuvent être détruites.
Faire tomber.
Détruire des ruines, quelle idée. Les ruines ont pourtant un verbe, ruiner,
maladresse,
qui s'applique à d'autres choses qu'elles. Monument de la mort. Les ruines n'ont pas de chronologie. Lorsqu'on dit ruine, on perçoit un paysage. Silence. Silence de Quevedo, qui a dû être Ward dans son temps.
Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos.
Il n'y a pas de langue morte. Tout parler est actuel. Toute langue est une perception.
Guerre. Vocabulaire. D'un ancien guerre dont la signification était mot.
Pierre qui boit
l'eau. Merle. Parce que cet oiseau est connu pour prononcer des mots. Agarn, oiseau qui ressemble au merle. Strophe, livre, s'embrouiller dans ses paroles.
Germ.
Au Kamband.
fermé, paupières, fermeture des paupières.
Relève-toi de ton linceul vide.
Bonde, ventail, mâchoire.
Et prête-moi ta voix. Testament de sagesse. Car ton enfant regarde et se trouve perplexe. Il a besoin du vrai, mais l'illusion l'empêche. Toi qui, autant jadis, fus loyal au royaume, si tu vivais ce jour, tu bénirais la tombe. Dans ton éloge au roi, tu louerais le malheur et nommerais, hélas, deux princes ennemis.
Ça m'évoque le merveilleux texte de René Daumal. Alors, il n'est pas question de langue, sauf celle de Daumal, mais ça c'est une autre affaire, c'est pas le même plan. Il n'est pas question de construire une langue, mais il est question de retrouver le lieu, un lieu existant, pas du tout fictionné, mais introuvable. Donc il y a quelque chose d'introuvable qui est en bas, qui est sur terre, mais qui est une montagne, et la montagne, bien sûr, elle se déploie entre le sol sur lequel elle se trouve basée, et puis le haut, qu'elle n'atteint pas, mais vers lequel elle regarde, vers lequel on monte. Voilà, et c'est l'histoire donc d'une expédition qui s'arrête, forcément, puisque on ne va pas jusqu'à l'endroit calculé, pressenti. Et alors, c'est l'histoire du mont analogue et de cette montée quelque part.
Pour Atoire Schaum, auteur du Livre de la beauté en 70, l'Isidore de Séville du mont Deward, le langage est seul réel. La théorie du lieu et de l'espace chez Atoire Schaum au 1er siècle devait inévitablement déboucher sur une esthétique et en l'espèce du paysage et du genre approprié, le genre de l'anabase. Le genre de l'ascension et de la montée dans le haut pays. Pour monter ou gravir, il faut être amoureux au sens strict du mirage.
Alors, pas de langue, mais un lieu. Il faudrait le lieu et la langue, si on pouvait. Il y a dans l'expédition un personnage qui s'appelle Sogol. Alors, c'est évidemment l'anagramme de Logos. Et dans Analogue, évidemment, Anna s'est montée, et Log, c'est Logos, donc évidemment, tout ça est finement tressé. Voilà, donc le monde analogue existe, et c'est cette fiction d'existence qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est pas qu'on fictionne quelque chose qu'on construit, c'est qu'on imagine que ça existe, et on fait comme si ça existait, parce que l'expédition, on dirait vraiment qu'elle a lieu. Et comment on dit on a lieu ? Elle a lieu.
Entendre venir l'injonction, enregistrer. On doit parler, on parlera. On chantera même, peut-être. On fera un lieu. On quittera le lieu sans le nommer. Ou bien on y restera. On fera un feu et un foyer sans feu. On devra parler et puis... silence. Humboldt était sans doute Ward lorsqu'il parlait de la mobilité et l'audace de l'imagination, l'accueil fait à l'harmonie et au rythme sonore, l'acuité et la finesse de l'ouïe. Et Platon encore, dans Phèdre, tout discours doit être composé à la façon d'un être vivant, avoir un milieu et en même temps que debout, qui a été composé de manière à convenir entre eux et le tout. Région. Région dans la lettre. Région dans l'oreille.
Est-ce qu'il y a des... Dans le nord, il y a le célèbre Cap de la Mort.
Oui, qui est mentionné souvent par les marins comme un endroit très dangereux, comme on peut le deviner.
Qui est à l'extrême ouest.
C'est la pointe sud-ouest de l'île du Nord.
En revanche, l'île du Nord ne connaît pas le lac, alors que l'île du Sud a deux lacs, dont un extrêmement étendu, oui, qui est comme une sorte de mer intérieure, oui, et qui, si je ne m'abuse, a une fonction fertile dans la littérature, puisque notamment le Fasaron est directement inspiré, la tradition poétique du Fasaron est directement inspirée par les villégiatures auprès de ce lac, oui, n'est-ce pas ?
Par les oiseaux qui peuplent ce lac, les rives de ce lac.
Je nomme ce lieu. Je nomme ce lieu et je l'appelle haut-parleur. Et en ce lieu, je nomme voix, ce qui lui donne vie. Je tiens un laboratoire dans un phare. Il y a quelque chose du miroir lumineux de la Torah qui rayonne dans la région pure de la doctrine écrite, c'est-à-dire inapplicable, aurait dit Scholem. Selon les kabbalistes, toute connaissance s'y réfléchit. Tout lecteur s'y reflète obscurément sans jamais pouvoir y saisir les racines. Inconsolable travail des seuils, qui permet à l'écriture et à la lecture un dévoilement et une productivité infinie. Le soliloque et l'aparté n'existent pas. Le sujet intime est toujours l'analogon du monde, soit de sa langue, qui ne peut se dire propre. Je tiens un laboratoire dans un phare, pourtant. En Iran, il y a un miroir magique qui permet de lire le passé et l'avenir. Et les oiseaux qui paraissent au miroir sont souvent des revenants. À ce stade, nous ne savons pas encore ce qu'est un phare ou un miroir, et encore moins ce qu'est une langue.
Donc cet article singulatif qui s'emploie donc à l'origine pour désigner, par exemple, les éléments naturels tels que le soleil ou la mer, enfin tout ce qui existe en un exemplaire unique. Alchem, le soleil.
Hypothèse.
Alwem, l'eau.
Nous sommes devant un paysage. Un paysage de langage, de mots.
Grammaire et donc en cela.
Tous les noms y sont des lieux.
Arber, la lune.
Les verbes,
etc.,
vont au mouvement de terre, de collines et de vent. Les adjectifs sont comme il se doit des nombres, par moments, et des qualités que les noms et les verbes mettent en mouvement. Les adverbes sont, comme dans toute langue qui en comporte, des vecteurs musicaux. Ils disent l'imperfection du verbe en son expression, comme en latin le lucere peut être exprimé par le lucens. La substance se meut dans l'existant, dirait le philosophe.
Mais un article réservé au ciel, au soleil, etc., à ces choses qui sont conceptuellement uniques, à ma connaissance, non, c'est la seule unique langue qui est ça. Donc c'est un des grands mystères, on va dire.
D'où vient qu'une blessure a eu lieu ? D'où vient que la nourrice Euryclée libère l'eau de la mémoire pour Ulysse ? Que fait l'échancrure ou la cicatrice quand elle libère le sang, l'eau ? La vérité. L'instant perfectif s'ouvre en lui-même et délivre la vague imperfective du récit et de la mémoire. Musique.
Puisqu'on s'est dit qu'il y avait une représentation de l'espace et du rapport à l'espace qui était quand même assez singulière.
Hara.
Zawant a la particularité de pouvoir s'appliquer à la fois à ce qui est éloigné, étranger, par exemple des pays lointains ou des pays étrangers, ou au moins des villes éloignées. Ce qui est inconnu, tout ce qui relève de l'inconnu, voire du mystère, peut être visé par ce même démonstratif. Le monde des dieux également, on s'y réfère avec ce même Zawant. par opposition donc, à des démonstratifs comme « ak », enfin, le plus simple, qui renvoie plutôt à de la proximité, à du connu. Donc, ce genre de distinction.
Parce que justement, la traduction, c'est la forme la plus accomplie du bonheur.
Tout à fait.
Nous dit le traité.
Dans la hiérarchie, en effet, un philosophe, un des philosophes classiques des Moines, établit quatre types de bonheur, dont la traduction, Mazarran, est la forme la plus haute.
Et donc, je pense qu'on devrait quand même faire un sort à l'histoire du jet.
Oui. Et des oiseaux en général.
Et des oiseaux en général. Qu'est-ce qu'on entend? Les oiseaux. Et qu'est-ce qu'on entend dans les oiseaux? L'origine du langage.
Les oiseaux qui transmettent donc la langue des dieux aux hommes.
Il y a un texte de Mazawaron qui date de 203, qui est directement inspiré d'Atwar Shon, sur le bonheur. Celui qui converse ne se soucie pas de la langue qu'il emploie, parce qu'il sait déjà qu'elle lui est commune à lui et à ses auditeurs. Mais celui qui traduit entrevoit l'importance de la langue, si bien qu'il s'adresse à l'auditeur pour lui parler d'une chose nouvelle et en utilisant des formules habiles. C'est ainsi que la traduction comprend certes le passage d'une langue à une autre, mais encore tous les textes et les discours écrits, dans la mesure où tout auteur est en même temps une sorte de traducteur. L'auteur dit en effet des choses qu'il est seul à comprendre dans une langue étrangère, au sujet d'une réalité extérieure qu'il est seul à connaître, mais qu'il peut, grâce à l'écriture, exprimer et transmettre à autrui. Ainsi, tout savoir et toute littérature mérite le nom de traduction, même sans différence de langue, parce qu'il y a étrangeté du thème et de la formule.
Pourquoi inventer une langue ? Et depuis peu de temps, lorsque cette question m'est posée, j'ai tendance à penser que je ne l'ai pas inventée, hein, que je l'ai apprise. Et puis, je viens de penser qu'il fallait peut-être poser la question à Wardwaisan, justement, se demander, parce que le verbe inventer, parlawan, qui existe tout à fait, qui pourrait s'employer justement pour inventer une langue, même si les Ward n'ont sans doute pas inventé de langue eux-mêmes. Donc, l'expression inventer une langue en Wardwaisan n'est pas nécessairement attestée. Donc, pour revenir à cette question, cet élément de réponse que donne peut-être le Wardwaisan lui-même, parlawan, donc l'invention, donc, voire l'invention de la langue, pourrait être rattachée à la racine parwa, qui désigne le besoin. Alors c'est une des deux hypothèses étymologiques qu'on peut faire sur ce verbe, ou bien il est par élargissement de la racine lié à paren, qui veut dire mener, guider, conduire quelque part. Donc inventer, c'est une façon de conduire, de mener quelque part.
De quoi s'agit-il quand on dit la beauté ? Se situe-t-elle dans le regard ou bien aussi dans l'objet regardé ? Est-il possible de la voir ou n'est-ce pas plutôt elle qui conduit à la vision ? La beauté se forme-t-elle comme ces rivières qu'on voit par mirage ? Ou est-ce qu'elle s'accomplit à nos yeux comme un objet bien défini ? On pourrait poser de très nombreuses questions sur ce que veut dire le mot « beauté ». Et ce sont des questions de très grande portée, puisque la plupart des hommes cherchent à se coucher sur la beauté, lui trouvent de l'agrément
à toi, Shun,
et la désirent afin de vivre heureux.
Kama te kema.
Peut-être qu'il est nécessaire que la beauté, comme la vérité, demeure ce qui nous intéresse par les questions qu'elle éveille et non par des réponses. Le vin de la beauté augmente l'ivresse de l'amour. De même, l'épice de l'amour augmente aussi le goût de la beauté. Il faut donc dire que la beauté se trouve dans le regard qui voit, qui admire et qui aime. Il faut l'aurore silencieuse du regard pour que cette étoile se révèle comme le soleil qui effacera toutes les autres étoiles.
Le texte emploie simplement « nerwa » qui signifie « aurore », mais le mot peut également vouloir dire « qui se tait », d'où notre choix de traduire « nerwa » par « aurore silencieuse.
Jacques Lacan aussi a écrit quelque chose à propos d'Eward, semble-t-il. L'ambiguïté de la révélation hystérique du passé ne tient pas tant à la vacillation de son contenu entre l'imaginaire et le réel, car il se situe dans l'un et dans l'autre. Ce n'est pas non plus qu'elle soit mensongère. C'est qu'elle nous présente la naissance de la vérité dans la parole et que par là, nous nous heurtons à la réalité de ce qui n'est ni vrai ni faux. C'est la parole présente qui en témoigne dans la réalité actuelle et qui la fonde au nom de cette réalité.
Atelier de Marois, espace et langage, d'après les Ward de Frédéric Verst.
Ak paragram au pere wahe war zerna zeran ak au atanama kreo France Culture Canal.
Avec les voix de
Ermebam au Arbaro,
Frédéric Verst, Patrick Quillier, Nicolas Vatimbella, Jean-Pierre Minaudier,
Frédéric Nera, Clarisse Ehrenschmidt, Antonia Soulez,
Odile Cortinovis, Catherine Vigne, Nathalie Michel. Musique:
Marmaron Kohn,
Nicolas Lausson, Lionel Marchetti, Olivier Caparros, Kat Hope. Remerciements: Patrice Thomas.
Texte 2.
Yeweran au Erban.
Ward, 1er et 2e siècle, Frédéric Verst. Édition du Seuil, 2011. 3e siècle, édition du Seuil, 2014. Coordination:
Coordinator Kuhn,
Inès de Bruyne, Irène Omelianenko. Prise de son:
Arzanda Aljarman Kuhn,
Jason Taous.
Mixage: Bruno Mourlan.
Réalisation:
Ak paragram à Martazan Kohn,
Nathalie Battus.
Atelier de Marois, espace et langage, d'après les Ward de Frédéric Verst, par Olivier Caparros.
Un palmier a eu raison d'un arbre mort. Un cri a parfois raison des discours. Dans Robinson Crusoe, Daniel Defoe définit la calenture comme une espèce de délire auquel sont sujets les navigateurs qui vont dans la zone torride.
Demain, vous retrouverez Manou Farine pour Poésie et ainsi de suite. Parmi ses invités, Laure Limongi, celle qui évoque la migraine du suicide dans son ouvrage « Anomalie des zones profondes du cerveau ». Il y aura aussi Christophe Fiat et Alexandre Dimos. Mercredi, dans Création on Air, nous entendrons ou réentendrons « Des pays » de Régnier Le Ricollet et Anna Schmuck. Le lendemain jeudi, Christophe Deleu et Gaël Gillon livreront les clés du Centre d'études radiophoniques.